48 FM.
Le mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme.
Rubrique pratique.
48 FM, le mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le mag de rentrée de 48 FM, le 103e du nom, un mag aujourd'hui en partenariat avec Midi Libre. À côté de moi, Caroline Gaillard, chef d'agence du Midi Libre Lozère. Bonjour Caroline.
Bonjour Ludovic, bonjour à tous.
Alors un mag spécial aujourd'hui car il va être consacré uniquement au conseil départemental de la Lozère. Près de 5 mois après le changement de conseil et de majorité, nous allons esquisser dans ce magazine un premier bilan de ce nouveau mandat, évoquer les dossiers en cours mais aussi les perspectives. Et pour cela, en invité, nous accueillons Sophie Pantel, présidente du conseil départemental de la Lozère. Bonjour.
Bonjour à tous.
Également ici à ses côtés, Laurent Suau, premier vice-président. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Jean-Claude Moulin, troisième vice-président, qui est là. Bonjour.
Bonjour.
Alors Caro, je te laisse la parole.
Donc pour commencer et faire un premier bilan de ces 5 premiers mois, il convient peut-être d'évoquer la situation que vous avez trouvée à votre arrivée. On sait qu'avec les baisses de dotation de l'État, les marges de manœuvre se réduisent comme peau de chagrin actuellement. Hein, ça vaut pour les conseils départementaux comme pour les communes et les conseils régionaux. Donc première question à Sophie Pantel, la présidente. Concrètement, dans quel état avez-vous récupéré il y a 5 mois le conseil départemental, ancien conseil général de la Lozère ?
Alors, lorsque nous sommes arrivés, nous avons été confrontés d'abord à des sujets d'actualité. C'était par exemple la contractualisation CPER, donc entre la région et les services de l'État, mais nous sommes concernés donc pour bon nombre de dossiers dans ce contrat. Il y a eu également le contrat région-département à préparer. On s'est heurté de nouvelles réglementations qui s'imposaient à nous, alors pour lesquelles la précédente majorité n'avait rien fait.
On viendra sur l'accessibilité. Voilà,
je pense à l'accessibilité en particulier, mais c'est également l'accueil des enfants réfugiés isolés mineurs. Hein. C'est une nouvelle compétence pour le département. Donc on a eu donc ce type de dossier à préparer. Il y a eu évidemment après des dossiers qui étaient engagés précédemment et sur lesquels il a fallu reprendre la main et réorienter un certain nombre de choses. Et puis on a trouvé des finances et une préparation de budget très contraint pour 2016.
Vous attendiez à ça, cette situation de finances, Laurent Suau, vous qui êtes en charge de cette commission ?
Oui, malheureusement. Les conditions de gestion financière du département et des recettes sont très contraintes. On n'a pas de marge de manœuvre. Il n'y a aucun élément sur lequel on pourrait éventuellement jouer qui permettrait de retrouver des finances. Donc la fiscalité, il faut à peine y compter parce que ça ne produit pas des effets. Ou alors il faudrait augmenter massivement les taux d'impôt sur le foncier non bâti, ça paraît utopique. Et puis on est dans un contexte, effectivement, comme vous l'avez dit, de baisse des dotations de l'État. Donc ce qui nous conduit à établir des budgets pour les prochaines années qui seront faits dans un contexte effectivement très contraint. On y travaille depuis ce matin, on a attaqué les commissions d'orientation budgétaire. Et sur chaque service, effectivement, on essaye de regarder jusqu'à l'euro près, quoi. Qu'est-ce qu'on peut épargner pour essayer d'insuffler la politique qu'on entend mener, vu que ce département a changé de camp, si je peux m'exprimer ici, et que donc on veut mettre en place, enfin, Sophie Pantel en parlera beaucoup mieux que moi, la présidente, mais on veut mettre en place une politique plus sociale, plus proche des gens, plus équilibrée sur le territoire. Et donc il faut qu'on trouve des marges de manœuvre.
Il n'y avait pas de bas de laine à votre arrivée ?
Ah non, aucun, même au contraire. Quand on est arrivé, quand même, par exemple, les aides pour les communes liées aux inondations de l'automne dernier n'étaient pas prévues par le budget. On a découvert 1,5 million concernant les solidarités, dépenses obligatoires. Je dis pas de dépenses obligatoires liées à nos compétences qui n'avaient pas été inscrites au budget. Très rapidement, on a individualisé un peu plus de 4 millions d'euros parce que on avait tous des remontées des entreprises qui manquaient de chantiers. Donc on a essayer de regarder tous les dossiers qui étaient prêts à démarrer en matière d'aménagement communaux, voilà, tout ce qui touche aux routes et on va dire aux bâtiments, au secteur du bâtiment en particulier, quoi.
Mais si vous voulez, l'ancienne majorité, en mettant en place les contrats territoriaux, n'avait pas mis les moyens financiers qui allaient avec. Donc, et pour schématiser, en 2015 et pour une partie de l'année 2016, il y aurait quasiment pour les collectivités aucun investissement sur le territoire, ce qui n'est pas acceptable pour les collectivités et pour le territoire et pour les entreprises qui travaillent dessus et pour les emplois. Donc, on a essayé avec la présidente, donc de modifier ça, comme vous le disiez, en inscrivant d'entrée, dès qu'on est arrivé à la première commission, 4 millions d'euros pour permettre un redémarrage de l'activité. Quoi.
Donc c'était une année blanche qu'ils avaient prévue, hein, pour pouvoir aussi, bon, au regard du budget, hein, ils savaient qu'ils ne passeraient pas, donc c'était un moyen de pouvoir souffler une année. Donc nous, dès début juillet, on a fait une lettre de cadrage, hein, budgétaire pour tous les directeurs. Et donc là, au moment de la rentrée, on a attaqué ces réunions. Et c'est vrai qu'on passe dépense par dépense. Hein. On va vraiment dans le détail de chaque ligne. Et puis on a quand même pris des mesures en termes d'économie au niveau du conseil départemental dès que nous sommes arrivés.
Ces mesures vont suffire ou il va falloir encore pousser plus loin?
Non, mais alors, ce sont des mesures qu'on a imposées au sein du conseil départemental. Là, maintenant, on essaye de faire le même travail dans tous les satellites. Et puis, chaque somme additionnée, c'est toujours ça de récupérer qu'on peut réinjecter sur de l'investissement.
Ces contrats territoriaux, pour bien expliquer, donc c'était des contrats qui étaient passés avec certains territoires. Il y en a eu combien qui ont été signés à peu près, hein ?
Les contrats territoriaux, c'est finalement un mode de contractualisation donc avec les collectivités locales. Jusqu'à présent, tout ce qu'on appelait aménagement de village était à la seule main du président Pourquier. C'était lui qui coupait, tranchait et décidait les montants attribués à chaque territoire. Nous, ce qu'on a voulu avec...
Un mode de fonctionnement pas très juste, finalement, c'est ce que vous dénoncez.
Il était absolument pas juste. Et chaque année, quand les tableaux étaient remis quand même sur table, puisqu'on ne les avait même pas à l'avance, combien de fois nous sommes pas insurgés et on a critiqué ce mode de répartition. Donc là, on a décidé de mettre en place des critères objectifs. Donc pour moitié à parts égales, une partie en fonction de la population, une partie en fonction de la surface. Parce qu'on a des territoires, des communes qui ont une très grande surface et dès qu'on fait des réseaux d'eau, d'assainissement, sont des kilomètres, etc. Et une partie en fonction de la longueur de voirie, ce qui nous permet d'avoir une somme à peu près juste. Ensuite, on a créé une enveloppe qu'on a appelée de rattrapage, de rééquilibrage, comme l'a dit Laurencio tout à l'heure. Il y avait quand même un gros déficit pour l'Est du département au profit de l'Ouest, dans les politiques qui étaient menées précédemment. Et puis, on s'est mis en ordre de marche pour répondre aux nouveaux modes d'action publique, avec une enveloppe réserve pour aider les territoires qui répondent aux appels à projets et les territoires qui vont bénéficier des fonds leaders, des fonds européens.
D'accord. Vous parlez de territoires qui ont été délaissés, l'Est, on pense notamment également un peu aux Cévennes. Alors justement, quelle est votre vision d'avenir? Quelle vision d'avenir avez-vous pour le département? Quels sont les territoires à développer? Comment? Alors doit-on faire l'effort sur les territoires qui ont pu être oubliés ou moins développés lors des autres mandatures? Doit-on, comme le préconisait par exemple Georges Frêche à l'époque, lorsqu'il était président du conseil régional, développer Mende pour qu'elle serve de locomotive à l'ensemble du département? Quelle est votre vision pour ce département, pour le développer dans l'avenir?
Et moi, je crois qu'il faut des justes équilibres, comme on a toujours. Mende est la préfecture du département. Donc si Mende se développe, ça bénéficie à tous les territoires. Mais Mende ne représente pas à lui seul toute la Lozère aussi. Donc il faut aussi que les autres territoires puissent renforcer le dynamisme et venir et se développer aussi. En sachant que tous les territoires n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc là, on a fait un état des lieux hein, quand on est arrivé au niveau des aides. Et on voit bien alors le déséquilibre entre l'Ouest et l'Est, et donc Mende fait partie du déséquilibre, était flagrant. Alors c'était encore pire sur certaines territoire, hein, je pense de l'Est et sur les Cévennes en particulier. Nous, ce qu'on souhaite, c'est apporter une attention particulière à ceux qui ont un retard, mais ne pas pour autant négliger les projets qui pourraient naître sur des territoires qui, jusqu'à présent, ont été bien accompagnés. On n'est pas en train de dire qu'on va prendre à certains pour donner à d'autres et ne plus aider ces territoires-là. Il faut trouver l'accompagnement sur mesure pour chacun des territoires.
Laurencio, c'était l'un de vos thèmes de campagne, ce développement de la ville de Mende.
Jean-Claude Moulin aussi, hein,
et Jean-Claude Moulin aussi, c'est vrai.
Quand on m'en doit.
Oui, en fait, moi je partage assez l'analyse de la présidente. C'est pas tout doit pas venir à Mende, mais pour autant, il y a quand même un certain nombre de choses qui partent de Mende. C'est la préfecture, elle est au centre du département, Et donc, il faut bien que la ville, la préfecture soit accompagnée. Et on voit l'antagonisme qui existait sur les 20-25 dernières années. On le retrouve que très peu ailleurs en France, quoi, où un département soutient pas sa ville préfecture. Ça devrait pas exister, quoi. Il devrait y avoir des partenariats qui se nouent. Donc c'est bien ce que le sénateur maire Alain Bertrand compte de faire avec la présidente Sophie Pentel pour effectivement. Mais comme elle le dit, il faut pas non plus que Mende veuille tout accaparer. Et il faut investir sur l'ensemble du territoire. Ça reste dans le domaine du symbole, mais par exemple sur les activités économiques, sur le soutien aux activités économiques, on avait jusqu'à présent avec l'ancienne majorité le principe que certains secteurs du département étaient plus aidés que d'autres. On a en première commission permanente rectifié le tir. La 75, il y avait une bonification sur les zones d'activité d'aide qui n'était pas, je sais pas moi, sur les Cévennes, sur Florac. Je parle pas de Mende là. Mais voilà, donc ça, c'est pour moi, ça me semblait une aberration. Et je comprenais pas le sens de ce qui avait été voulu faire par l'ancienne majorité. Donc c'est sur ce genre de choses-là aussi, de petits éléments qui font que ben, le territoire, c'est un territoire, c'est un département. Et on aide le département.
Voilà, par exemple, bon, à Mende, il y a le projet d'espace événement donc, que le département a accompagné. Et si on prend par exemple le très haut débit, le secteur de Mende, la communauté de communes, bénéficie parce qu'il y a assez de population, du coup, d'un opérateur privé qui va venir desservir. Donc là, le département n'intervient pas. Mais par contre, le département, du coup, se doit d'être solidaire des territoires où, parce qu'il y a une carence privée en la matière, ben, on se doit d'aller développer ces territoires-là. C'est en ce sens que je dis que... ce qu'on peut faire à un endroit sur une thématique, on le retrouvera pas forcément ailleurs. Et qu'en fonction des besoins, il faut être présent pour accompagner le développement de tel ou tel secteur.
Et finalement, dans ces 5 mois qui viennent de s'écouler, où on le sait, vous avez tous été très sollicités, est-ce que ces territoires qui avaient été oubliés ont un peu crié au secours ou finalement pas tant que ça ?
Aussi. Enfin, moi, dans l'été, je suis allée... j'ai essayé d'être présente sur tous les territoires. Hein. Je suis allée sur l'Aubrac, la Margeride, les Cévennes, sur l'Écosse. J'ai essayé de faire le tour. Et en tout cas, bon, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes. Il y a quand même un certain nombre de dossiers qu'on a pu passer depuis, qui étaient bloqués depuis un certain nombre de mois ou voire d'années pour certains. On a relancé des études, je pense par exemple pour le collège de Meyrès, qui avait été promis et repromis, sur le fameux carrefour de la Tuilerie à Langogne, qui va desservir quand même une zone d'activité. Enfin, qui est centrale avec l'hôpital. Bon, voilà, il y a des dossiers comme ça où on a redonné des orientations qui sont différentes de ce qu'elles étaient auparavant, quoi.
Pour poursuivre la question de Caroline, je vais me faire un peu l'avocat du diable, notamment en parlant des Cévennes, ces endroits à faible densité de population. Finalement, est-ce qu'il y a assez d'acteurs pour porter des projets, assez de projets portés ? Jean-Claude Moulin est là, il pourrait également y répondre. Je me rappelle qu'il y a quelques années, les fonds européens, on n'avait pas toutes les aides parce qu'il n'y avait pas assez de projets pour récupérer toutes les aides de ces fonds européens. Finalement, est-ce qu'il y a assez d'acteurs et de projets dans ces territoires-là ? Et sinon, comment on peut les aider à se regrouper et à faire des propositions ?
On va laisser peut-être Jean-Claude s'il veut, et puis on complétera.
Oui, oui.
Qui a géré le GAL, hein, on peut le rappeler.
Voilà, c'est pour ça.
Qui gère encore le GAL.
C'est Laurentio qui a pris ma suite sur le GAL Terre de Vie. Et puis il y a un nouveau GAL maintenant donc en Cévennes, donc il va s'occuper vraiment particulièrement des projets Cévenol, effectivement. Mais il y a eu, pendant quand même le programme Leader, il y a eu des projets notamment apportés par le pays Gorge Cosse Cévennes, qui étaient aussi importants que celui qu'on avait, nous, par le pays des sources. Et effectivement, tous ces projets ont été donc aidés. Et d'ailleurs, l'enveloppe du GAL a été totalement utilisée, hein, l'enveloppe qui était prévue sur les 6 ans, a été totalement utilisé. Il a fallu même d'ailleurs demander un supplément que nous avons aussi utilisé. Donc les projets, il y en a, et même s'ils sont des fois moins importants en chiffrage que ceux qui sont plus particuliers sur Mende, il y a beaucoup de projets et donc ils ont été accompagnés, ils le seront encore, hein, il n'y a pas de souci.
Donc assez d'acteurs sur ces territoires, c'était pas le problème, oui. Parce qu'on a pu entendre dire de...
Non, parce que ça, c'était l'argument politique qui était avancé à chaque fois que l'on mettait en avant les répartitions qui nous étaient proposées. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu de souci, de dynamisme sur certains territoires. Après, il y avait certains territoires qui bénéficiaient d'ingénierie, de soutien de certains services, etc., et qui, de fait, pouvaient avancer un peu plus vite. Mais, par exemple, sur les Cévennes, c'est typiquement l'endroit où sa vie, enfin, quelque part, en termes de création, de projet, où c'est quand même un des endroits les plus vivants, et de très nombreux projets ont été accompagnés. Et sur l'enveloppe, c'est vrai que Jean-Claude le disait, hein, sur le précédent GAL, il y avait autant de projets sur ces territoires avec moins de population que sur l'autre côté.
Et même sur, c'était plus dynamique à un secteur associatif sur le secteur Cévenol que sur la Margeride. Donc la proportion de dossiers était à peu près identique. Le montant financier, il doit y avoir un peu d'écart entre la partie nord et puis la partie Cévennes. Mais par contre, le dynamisme associatif était beaucoup plus important dans les Cévennes.
Qu'en est-il sur l'Aubrac ? On est à peu près au même niveau que sur le territoire des Cévennes.
Il y a peut-être un peu moins d'associations que ce qu'on peut avoir sur le sud. Après, je pense qu'il ne faut pas opposer les territoires. Enfin, on n'est pas là pour opposer les territoires aux uns aux autres. Nous, ce qu'on veut, c'est que chacun puisse être accompagné. Mais par exemple, sur les enveloppes leader que la région vient d'attribuer, et bon, même si on se voit tout à l'heure, j'en profite pour quand même rappeler qu'on a réservé 40 millions d'euros sur le FEADER, rien que pour les crédits leader. Les crédits leader, c'est quand même le programme qui permet l'expérimentation en milieu rural, qui a permis de mettre en place des tas de services comme le transport à la demande et bien d'autres choses sur le territoire. D'ores et déjà, nous avons bien plus que ce que nous avons eu sur toute la dernière programmation. Et il y a encore 10 millions en réserve. Donc on voit bien que la Lozère, elle a été bien servie. Alors après, avec des montants un peu différents, entre 1,6 million et 2 millions sur chacun des GAL, mais on avait quand même trois bons dossiers. Et après, c'est à chacun de s'approprier ce fonctionnement et puis de porter ses projets. Nous, en tout cas, côté département, on s'est mis en ordre de marche pour pouvoir accompagner les associations, les collectivités, enfin toutes les structures qui vont déposer des dossiers et qui ont obligation d'avoir une contrepartie nationale avant de pouvoir aller chercher des fonds européens.
Dans la majorité, vous êtes mis en ordre de marche, je reprends vos mots. Dans cette majorité, il y a deux groupes. Comment se passe la gouvernance ?
Écoutez, pour le moment, ça se passe très bien. On se retrouve tous les lundis matins en groupe majoritaire. Chacun fait des propositions. Alors, il y a à la fois les dossiers d'actualité que l'on inscrit, liés à l'institution. Et puis après, il peut y avoir des fois des dossiers de fonds ou autres. Et chaque groupe fait des propositions. Et puis voilà, donc il n'y a pas de souci.
Laurent, c'est aussi votre avis ? On sait que le démarrage a été un peu difficile, l'accouchement, on va dire.
Ah non, pas le démarrage.
L'accouchement. Non,
l'accouchement, oui. Mais après, une fois qu'on a eu calé les choses...
Une fois que le bébé était là...
Qu'on est allé le jeudi qui a suivi le deuxième tour des élections voter pour élire Sophie Pantel présidente, il n'y a pas de souci. Ouais. Je pense qu'on travaille... On travaille en bonne intelligence et j'espère que ça va pouvoir perdurer encore comme ça jusqu'à la fin du mandat, peut-être même plus après encore, et pour dans l'intérêt du département. Bon, c'était un peu compliqué à mettre en place parce que c'était nouveau pour nous
bien
aussi.
Sûr.
Enfin, mais en même temps, depuis, non, bon, tout va bien, quoi.
De toute manière, c'est vrai que c'est une nouvelle équipe. On a à la fois des anciens élus, des nouveaux qui arrivent, qui découvrent aussi quand même l'institution, les politiques publiques, beaucoup de choses nouvelles. Donc après, petit à petit, la cohésion, elle se fera au fur et à mesure. Il y avait des gens qui se connaissaient bien, d'autres qui se sont découverts, donc il faut aussi laisser le temps.
C'est compliqué, justement, là, vous aviez quand même... Il y a un renouvellement qui a
très,
fait...
Très important.
Voilà, très important,
et
qui a fait que beaucoup découvraient l'institution. Dans une période qui n'est pas facile, en plus, hein, je pense que c'est plus facile d'arriver aux manettes quand tout roule. Mmh. Donc, est-ce que ces gens, maintenant, ont pris un peu leur marque ? Comment ça se passe dans cette équipe ?
Chacun avance à son rythme et en fonction aussi du temps et des disponibilités pour s'impliquer. Certains travaillent encore.
Vous trois autour de la table, en tout cas, enfin, je le sais, pour vous croiser régulièrement, vous avez quand même depuis 5 mois des journées qui sont longues.
Très longues, on va dire très longues. Mais bon, on va pas se plaindre puisqu'on l'a voulu. Mm-hmm. Donc, on assume et on se plaint pas. Voilà. Bon, après, ce qui fait la difficulté dans l'Assemblée, mais au-delà de notre majorité, c'est que il y a quand même un certain nombre de nos collègues qui n'avaient jamais géré, qui n'avaient jamais été ni élus municipaux, et qui découvrent quand même un monde de nouveau. Donc on a parlé pas plus tard que lundi de mettre en place un plan de formation pour les élus. L'autre difficulté, au-delà des problèmes budgétaires, des baisses de dotation ou des difficultés qui sont devant nous, c'est surtout le changement à la fois réglementaire, hein, au niveau, on a quand même la loi NOTRe avec un certain nombre de compétences que nous allons perdre, la fusion des deux régions, et donc c'est un nouveau mode de travail et de contractualisation à mettre en place avec cette région. Voilà, il y a un changement du mode de l'action publique, puisqu'on passe avec, pour beaucoup, on aura beaucoup d'appels à projets. Donc voilà, donc tout ça fait que bah, il faut aussi s'adapter et qu'en ce moment, on avance à pas forcer. Voilà.
Comment, parce que c'était quand même aussi fort dans cette campagne, l'arrivée des femmes dans les assemblées départementales, comment trouvent-elles leur place? Est-ce qu'il y a un souci de ce côté-là? Il ne nous semble pas vu de l'extérieur, mais...
Alors, il y en a quelques-unes quand même qui se sont plaintes. C'est Francis Courtès, hein, qui, vous savez, il est questeur, donc du coup, il fait le lien entre les élus et donc l'administration. Et certaines avaient l'impression, en fait, qu'on les prenait pour les suppléantes de leurs colistiers. Voilà. Donc, il nous a fait une petite déclaration un jour en commission permanente et il a rappelé que chacun était bien élu et qu'il n'y avait pas en fait de hiérarchie. Voilà. Alors je pense que c'est lorsque sont des nouveaux élus, c'est plus facile, et que par contre quand il y a un ancien et peut-être une nouvelle qui arrive, c'est un peu plus compliqué.
Voilà, connaissant vos binômes, ça doit pas être le cas pour vous, messieurs, j'imagine.
Non mais moi non plus. Hein. Je suis très respectueuse de mon policier.
Au niveau du personnel, puisqu'on est sur la gouvernance, ce renouvellement aussi, moi j'ai entendu des agents dire, on retrouve un peu notre place parce que finalement quand on a une équipe qui est en place depuis très longtemps, avec des élus qui justement, eux, connaissent tous les rouages, il y a une espèce de routine, et certains agents pouvaient avoir l'impression de plus servir à grand-chose. Moi, certains m'ont dit, les élus arrivaient avec leur projet, il fallait qu'on s'adapte, alors que là, comme les élus découvrent, on fait des propositions, et on retrouve, enfin, ça, on sent que ça a reboosté un petit peu aussi le personnel.
Alors, moi, je répondrai à deux niveaux. D'abord, nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est mettre en place des PPI, hein, des plans pluriannuels d'investissement, c'est-à-dire de faire quand même de la programmation et qu'on soit pas au coup par coup en fonction de tel élu qui pèse un peu plus ou qui se fait entendre un peu plus, parce que quand même, c'était géré comme ça. Et du coup, on peut pas avoir une bonne vision du développement de la Lozère et du coup, un équilibre aussi, hein, parce que quand on fait au coup par coup. Et puis ensuite, je pense qu'on a redonné la parole aussi à l'administration. Alors, des élus sans une bonne administration, on va pas loin. Et une administration a besoin d'avoir aussi un projet politique et de pouvoir le mettre en œuvre.
Vu qu'on est sur ce thème, on va y rester avec la réorganisation des services qui doit se faire prochainement. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot.
Alors, on va le dire rapidement parce que je comptais le développer. Jeudi, on a notre repas de rentrée. Donc, on a un certain nombre d'annonces à faire à nos agents. Mais simplement, sur le principe, bon, ils sont au courant. Il est nécessaire de réorganiser les services. C'est pas une nouvelle équipe arrive, je fais table rase parce que c'était la majorité précédente et que tout n'allait pas. C'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la loi NOTRe, donc on perd des compétences. Donc on a des agents qui vont devoir changer de métier. Donc il faut qu'on puisse leur proposer de la formation, de pouvoir aller vers d'autres directions, d'autres services. Et puis le changement du mode de l'action publique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui va faire, à mon sens, la plus-value des départements, c'est l'ingénierie, l'accompagnement qu'on sera capable de mettre en place au service du territoire. Aujourd'hui, on a quelques agents qui le font. Ils sont absolument pas assez nombreux. Donc je suis pas en train de dire non plus qu'on va embaucher, puisqu'on va avoir des agents qu'il va falloir former et à qui on va proposer donc une réorientation. Mais en tout cas, l'idée, c'est que lorsqu'il y a une idée sur le territoire, qu'elle soit portée par une association, une collectivité, qu'on puisse être là pour les accompagner sur le montage du projet, sur la recherche de financement, qu'on aille vraiment très loin là-dessus. Et quelque part, c'est de coordonner aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir trois associations qui répondent à un appel à projet, au lieu de se faire concurrence entre elles, bah, c'est peut-être de coordonner, de faire un seul dossier Lozère et d'aller chercher les moyens financiers là où ils sont aujourd'hui.
On sait que les services sont dispatchés sur l'ensemble de la ville.
On peut rappeler peut-être le nombre d'agents que représente le conseil
départemental. Il doit y avoir 800 feuilles de paye en équivalent temps plein. Ça fait un peu plus de 600, entre 600 et 650 emplois.
Un des plus gros employeurs du département.
Si on compte tous les satellites, ça fait 1000 même. Ouais.
Ce qu'on peut rajouter personne. Aussi, c'est que bon, on sait les contraintes auxquelles on a affaire face budgétairement. Donc on est bien obligé aussi de regarder, puisque la masse salariale, c'est un tiers du budget de fonctionnement. Donc c'est un peu plus de 30 millions d'euros sur 100 millions d'euros de budget de fonctionnement. Si on veut rester efficace et intervenir un maximum pour le territoire, pour les collectivités, mais aussi pour l'investissement, pour le propre investissement du département, ses propres routes, ses propres bâtiments, il faut qu'on soit encore plus performant dans les années à venir sur les dépenses de fonctionnement. Et la masse salariale, effectivement, ça représente un poste budgétaire important.
Les services vont rester tels quels, donc c'est la question que j'avais posée. On sait qu'il y a plusieurs bâtiments, les salariés sont dispatchés un peu partout. Ça, on s'est souvent posé la question de les regrouper, de ne pas les regrouper.
Il y a même eu un projet d'hôtel de département.
Alors, le projet d'hôtel de département, qui était quand même un peu pharaonique, tel qu'il était conçu, qui visait à regrouper tout le monde sur le COS là-haut, bon, ça, il n'en est absolument pas question. Aujourd'hui, on a quand même toute la DSD qui est installée dans de bonnes conditions suite à la rénovation de la cité par la mairie de Mende. On a la DRTB. Ensuite, on a par contre toute une série de services qui sont éclatés dans des locations et qui parfois, au sein même d'un service, ne sont pas sur les mêmes bâtiments. Donc, ce qui pose un problème, évidemment, d'efficience, voilà, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc là, on a une réflexion qui est en cours.
Très bien. On va parler peut-être on va évoquer des sujets annexes au conseil départemental, Caroline.
Oui, on sait que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a le conseil départemental et toutes ces filiales, entre guillemets, tout ce que vous gérez de façon annexe. Une a fait la une de l'actualité pendant de nombreux mois, c'est le SDIS. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point où est-ce que ça en est? On sait que vous souhaitiez, là pour le coup, faire quand même un grand nettoyage et puis reprendre un peu les choses à zéro. Alors, l'élu qui est en charge du SDIS n'est pas là, mais je sais que vous suivez ça de très près.
Oui, ça nous a beaucoup occupé dès qu'on est arrivé. Bon, c'est vrai que Francis Courtès, le président du CASDIS, n'est pas là, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais bon, aujourd'hui, on a essayé de travailler. En fait, c'était des problématiques liées à la direction. Donc, il y a un certain nombre de procédures en cours contre un certain nombre de personnes. Et du coup, on a recruté un directeur départemental adjoint.
Qui est arrivé cet été.
Qui est arrivé le 1er août. Et qui a fait le tour, évidemment, de tous les centres, a rencontré les sapeurs-pompiers volontaires, est en train de réorganiser la direction. On a eu une inspection, puisque moi, j'étais allée au ministère de l'Intérieur, une nouvelle inspection la semaine dernière. Donc ils ont fait un certain nombre de préconisations sur la réorganisation que l'on va suivre. Sur l'aspect budgétaire, on se heurte à un besoin très important d'investissement au niveau de tout ce qui concerne le matériel. Donc ce qu'ils nous ont préconisé, parce qu'on a un nombre de matériel très supérieur à la moyenne des autres départements, c'est de commencer par déclasser, supprimer des véhicules qui nous coûtent très cher en entretien. Et ensuite, on doit se revoir à peu près dans un mois et pour voir après quel serait le niveau d'aide dont on aurait besoin pour lancer là aussi un plan pluriannuel d'investissement. Moi, je voulais quand même rappeler que cet été, on a connu beaucoup d'incendies et qu'il y a eu quand même un travail remarquable qui a été fait par le SDIS et par les sapeurs-pompiers volontaires. Et du coup, je profite de votre antenne pour les remercier parce que cet été, ils ont été très présents et puis efficaces.
Oui, c'est un sujet d'autant plus sensible qu'on sait que cette masse d'hommes et de femmes qui sont à la disposition des Lozériens sont pour la plupart des bénévoles, pour la très très grande majorité. On a tous dans nos familles, dans nos proches, un pompier volontaire. Et c'est vrai que ça rend le sujet d'autant plus sensible.
Bon, c'est vrai qu'on a pris quand même des mesures en termes de gestion. On a pris le taureau par les cornes, on va le dire comme ça. Et bon, je pense que maintenant, les vacations sont payées dans les temps. Enfin, voilà, il y a toute une série de choses comme ça qui ont été faites, qui ne se voient pas, enfin, voilà, sur lesquelles on n'a pas communiqué. Mais
qui permettent de repartir.
Mais qui permettent de repartir. Alors, tout n'est pas réglé. Il ne faut pas penser que tout est facile. Mais en tout cas, on repart sur plutôt de bonnes bases. Et puis, par contre, budgétairement, mais le premier vice-président va trouver les moyens. il nous faut une prochaine DM. Non, parce que ces incendies ont coûté quand même en vacations, en casse de matériel. Voilà, donc on doit trouver les moyens pour faire une rallonge aux 10 en fin d'année, là, à l'automne.
On vous a
sachant,
vu sur...
Oui, pardon. Sachant que le budget avait été minoré... En début, le budget de base, il avait été minoré en début d'année, alors qu'on savait pertinemment que pour boucler, c'était compliqué dans cette enveloppe-là. Quoi. Et donc, on s'attendait, malgré ce qui a pu se passer cet été, en termes d'incendie, on s'attendait effectivement à devoir rallonger un petit peu. Rajouterai aussi peut-être qu'il y aura une réorganisation avec avant, alors Sophie Pantel peut-être pourra plus mieux l'expliquer que moi, mais il y avait deux groupements et on irait vers une direction en quelque sorte unique et on supprimerait les...
On supprimerait des échelons intermédiaires. L'objectif, c'est aussi de remobiliser chefs de centre, voilà, tout, et de pouvoir, quelque part, que les sapeurs-pompiers volontaires, que ce soit attractif pour eux, et voilà, de pouvoir, qu'ils s'approprient aussi tout le dispositif et qu'ils y participent pleinement.
On vous a vu d'ailleurs sur le terrain, là, ce week-end. Chaque caserne lance ses journées de recrutement. C'est compliqué depuis quelques années. De trouver des bénévoles.
Alors ça fluctue, hein, mais aujourd'hui c'est de l'ordre de 650. Alors c'est jamais simple parce que c'est beaucoup d'investissement pour eux, parce que même s'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, eh bien, il faut qu'ils soient aussi performants qu'un professionnel, et donc ils ont un temps de formation qui est très important. Bon alors au départ, hein, ils passent plusieurs modules et petit à petit donc ils peuvent partir sur des feux ou sur du secours à personne, etc. Mais c'est quand même de la formation continue. Donc c'est vrai que c'est pour ça que tout ce qui s'est passé en termes d'attractivité pour les sapeurs-pompiers volontaires, c'était pas très bien, pas ce qu'il nous fallait. Voilà.
Mais on va laisser passer une chanson le temps de permettre à Laurent Suau de trouver une rallonge budgétaire nécessaire pour le SDIS. On vous retrouve bien sûr sur 48FM après cette chanson pour parler accessibilité, hôpital, également fusion des régions, tourisme, enfin tout un tas de sujets avec le conseil départemental de la Lozère.
An ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son, beating on the big people in a big heart world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah. When I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big, heart, son, beating on a big.
48 FM Le Mag.
Et nous sommes de retour dans ce MAG de 48 FM consacré au Conseil départemental de la Lozère en partenariat avec Midi Libre. Et on va reprendre en parlant, on a parlé du SDIS, on parlait des sujets annexes. Autre situation complexe, l'hôpital de Saint-Alban. Donc dans le quotidien Midi Libre, également sur notre antenne, on en a parlé il y a quelques mois. Sophie Pontel, où en est-on à l'heure actuelle de cette situation très très difficile ?
Alors écoutez, l'hôpital de Saint-Alban connaît ce qu'on appelle un débasage, hein, donc une baisse de la dotation de fonctionnement, comme tous les hôpitaux. Donc on a eu plusieurs séances de travail hein, sur le budget de l'hôpital. La difficulté, c'est que cet hôpital a plusieurs sites, donc avec évidemment des coûts de fonctionnement qui sont démultipliés par rapport à une implantation unique. Et avec donc différents services. La semaine prochaine, le 15, on a une réunion de travail pour présenter en fait les résultats hein, de tout ce qu'on a pu constater et les perspectives financières pour l'hôpital avec tous les représentants du personnel, les syndicats, les membres de la CME, hein, donc les médecins et puis une partie du conseil de surveillance. Donc là, on va partager un état des lieux et à partir de cet état des lieux, ben on sera amené à prendre des décisions qui seront peut-être pas faciles à prendre.
Ça a été dur d'en arriver là parce que ça a été assez opaque au début. Hein.
Ça a été très compliqué pour avoir les informations, d'avoir une totale transparence. Je prends qu'un exemple, hein. Par exemple sur le CDR, au départ on nous annonçait fermeture du CDR, c'est 1 million d'euros d'économie, hein, le centre de réadaptation de Saint-Chély. Et en fin de compte, on se rend compte qu'on est à 400 000 euros. Alors 400 000 euros, c'est pas rien. Hein. Mais voilà, on n'est pas du tout dans les chiffres qui nous avaient été annoncés au départ. Donc là, maintenant, on a vraiment une vision. On a réussi à se caler avec M. Villeneuve, le directeur. J'ai rencontré plusieurs fois l'ARS. Hein. Madame Marchand était encore là lundi dernier parce qu'on n'a pas que Saint-Alban. Hein. Il y a aussi problématiques des autres hôpitaux sur le département. Et puis je suis allée au ministère deux fois. Donc voilà. Donc là maintenant, je pense qu'on a calé un mode de fonctionnement qui permet d'avancer dans de bonnes conditions.
L'hôpital demande l'antenne à la filière adolescente de l'hôpital demande, on sait qu'il est en danger également, on sait un petit peu plus, ou faut attendre cette réunion ?
Non, alors sur la pédopsychiatrie, ce qu'on a décidé de faire, parce que on est parti des besoins hein, et on se rend compte qu'on a des besoins qui ne sont pas satisfaits, et je vais prendre par exemple que l'exemple de l'hospitalisation de nuit qui n'existe pas. Aujourd'hui, si on a un enfant qui est en crise la nuit, soit on le met en pédiatrie, avec un certain nombre de risques qu'il peut y avoir pour les autres enfants, soit on le met à l'hospitalisation avec les adultes, ce qui n'est pas non plus du tout satisfaisant pour lui. Voilà. Donc, ce qu'on a décidé avec Madame Marchand, donc la directrice par intérim de l'ARS, c'est de financer à parité hein, entre le département et l'ARS une animation, un travail de fond avec tous les acteurs de la pédopsychiatrie et d'essayer de voir comment conforter à la fois donc l'installation amende, enfin l'annexe amende, et puis la ribambelle sur Flora qui est aussi très importante comme poste, on va dire, avancé sur le territoire Sévenol.
D'accord, j'imagine qu'on en saura plus très prochainement, ça va devoir se faire
c'est
assez
un
rapidement.
C'est un travail qu'on va lancer. Après, il faut le temps de rencontrer tous les médecins, de rencontrer tous les acteurs de l'enfance. Je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne 6 mois, 8 mois de plus et qu'on arrive après à une organisation qui puisse être acceptée et qui corresponde vraiment à une réponse des besoins qui sont aujourd'hui flagrants.
Quid des emplois, parce qu'on sait que les contrats de durée déterminée dans un premier temps avaient été annoncés comme pas renouvelés. Si on se laisse le temps de la réflexion de 6-8 mois, qui arrivent enfin en janvier par exemple...
Les CDD qui arrivent à échéance n'ont pas été déjà renouvelés. Mais ça, c'est le cas dans bon nombre de structures. Après, vous aviez des CDD qui étaient là aussi pour des remplacements de maternité ou de maladie. Bon, voilà, là, on est dans de la gestion de RH classique.
Mmh. Voilà. Parce que, par exemple, sur l'antenne de demande, on sait que, par exemple, il y a une psychologue qui est en CDD qui se termine en janvier. On parle de ne pas renouveler son contrat, de prendre peut-être celle de Saint-Chély ou de Flora qui ferait des allers-retours, mais ça paraît assez confus, assez compliqué à mettre en œuvre.
On n'en est pas encore à ce niveau-là hein, sur la réorganisation. Il faut qu'on puisse déjà voir avec nos agents titulaires comment on peut répondre aux besoins. Et puis s'il y a besoin, ben, après, on recrute de manière externe. Hein, voilà. Bon, Sur Saint-Alban, c'est vrai que c'est très compliqué, hein, de manière la psychiatrie en général, hein, c'est pas simple. Donc c'est quand même un hôpital qui est très important pour le département, hein, avec et qui conserve chacun de ses CMP, hein, son implantation sur Langogne, Saint-Chély, Florac, Marvejols et Mende, bien sûr, quoi.
Autre dossier qui vous tombe sur les bras, comme d'ailleurs et malheureusement de nombreuses communes et départements français, Caroline, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est l'accessibilité.
Alors, la mise aux normes, hein, obligatoire.
Oui, donc sur l'accessibilité, bah, c'est une loi qui remonte 10 ans en arrière. Donc, précédente majorité n'avait rien fait, espérait toujours avoir des dérogations, de gagner du temps. Aujourd'hui, on doit remettre avant la fin de la semaine prochaine au préfet un plan pluriannuel d'investissement. On doit s'engager sous peine de sanctions financières importantes pour le conseil départemental. Donc dès qu'on est arrivé, on a travaillé avec le service des bâtiments. On a chiffré tout ce qu'il y avait à faire. Et puis ce qu'on a souhaité aussi, c'est avoir la partie ADAP, hein, donc accessibilité, mais profiter des investissements pour régler aussi... certain nombre de difficultés. Alors parfois c'est lié à l'ADAPT, parfois non, c'est des investissements qui sont nécessaires sur les collèges. En termes d'objectifs sur notre mandat, donc nous d'abord on demande une dérogation au préfet pour faire en 9 ans, parce qu'en 6 ans c'est mission impossible, on est à 40 millions d'euros, Laurent.
Ah oui, au total, oui. En fait, sur les bâtiments ERP, le département c'est un peu plus de 50 bâtiments, pardon, dont une bonne trentaine qui sont classés ERP, donc pour lesquels l'accessibilité s'applique. Et donc là, on a un budget à 27 millions d'euros global, en tenant compte de la reconstruction du collège de Merueils. Et après, on a un certain nombre d'investissements sur des bâtiments qui sont vêtus aussi, donc l'enveloppe est supérieure à 45 millions d'euros. Sachant que jusqu'à présent, le budget bâtiment, investissement bâtiment annuel, il était à 2 millions d'euros.
Donc, par an. Donc vous voyez
on
un
vient
peu...
de discuter ce matin en OB et on est passé à 3,7 pour 2016. Donc...
C'est voilà. Énorme. Donc ce qu'on a dit, on demande une dérogation à monsieur le préfet. Donc je pense qu'il nous l'accordera, puis d'autant plus qu'on peut le justifier sans aucun souci d'un point de vue budgétaire. Ce qu'on veut réussir à faire, c'est réaliser tous les collèges, tous les CMS avant la fin du mandat, donc ce qui représente quand même une part très importante, et puis la partie bâtiment de nos agents sur le siège, donc à Mende. Voilà, ça c'est l'objectif. Et sur les 3 années suivantes, ce sera la partie bâtiment plus technique, mais qui accueille beaucoup moins de public, donc pour nous, en termes d'urgence, c'était moins flagrant.
En termes d'urgence. C'est un des éléments qu'on a trouvé à l'arrivée, comme le disait la présidente, donc... Mais il n'y a pas que celui-là. On avait un certain nombre d'engagements, aussi un investissement. Alors là, global, on est à plus de 100 millions d'euros d'investissement quand on arrive. D'engagements qu'on a pris et qu'on doit réaliser. Alors qu'on a un budget d'investissement qui est aux alentours de 35-40 millions d'euros. Donc vous voyez un peu les problématiques auxquelles on doit faire face, qu'on a dû faire face très rapidement et qu'on a supporté sur les prochaines années.
Et tu pourrais parler des DSP aussi.
Et on pourrait parler, mais on va en parler tout à l'heure dans les satellites, non ?
D'accord.
On va en parler, oui. C'est pas une chanson qu'il va falloir que je passe pour la rallonge budgétaire, c'est l'album, là, Laurentio. Les satellites, oui, bon, on va en parler maintenant avec, en décembre, la fusion des régions. Alors, il est vraisemblable, on ne le sait pas vraiment, mais on peut quasiment être sûr quand même que la région garde l'économie. Donc, quid des satellites du conseil départemental ? Je pense par exemple à Lozère Développement. Qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, dans la loi, il est clair que la région devient chef de file sur le développement économique. Ça, c'est tranché. Nous, on a les solidarités et la solidarité territoriale. Par contre, sur la loi NOTRe, les décrets d'application ne sont pas sortis. On n'a pas d'indication non plus de calendrier. Donc, il faut attendre d'avoir ces décrets pour pouvoir analyser plus finement. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'interrogations. On a des interrogations pour Lozère Développement, qui, de fait, devrait basculer vers la région. On a des interrogations pour la CELO, puisque dans la loi, il est dit que sur toutes les SEM, le conseil départemental devrait céder 2/3 de ses parts à la région, puisque là, on est sur de l'aménagement. Voilà, bon, il y a la question de la SEM abattoir. Là, je pense qu'on peut justifier, puisqu'on peut conserver des interventions en matière d'agriculture. Donc, du coup, je pense qu'on peut avoir... une analyse et pouvoir défendre le maintien de la SEM abattoir au département. Voilà. Mais toutes ces questions au cours des 6 premiers mois là, 2016, seront à discuter avec la nouvelle région après les élections. Ça, et puis l'articulation sur les compétences partagées. Parce qu'aujourd'hui, donc on a le tourisme, le sport et la culture qui sont des compétences partagées avec la région. Et il y aura donc une commission régionale co-présidée par le préfet de région et le ou la présidente de la future région qui détermineront qui fait quoi. Et c'est là que nous aurons à défendre les politiques que nous voulons maintenir.
Justement, là, cette fusion, ce départ d'un certain nombre de services vers Toulouse, ça vous inquiète finalement? On n'est pas si loin que ça de Toulouse?
Non, moi, ça m'inquiète pas. Je fais partie de ceux qui étaient plutôt favorables à cette fusion dès le départ. Moi, je pense que c'est même une chance pour nous, parce qu'aujourd'hui, on avait une situation un peu atypique, hein, avec 4 départements très urbains. On n'était pas sur les mêmes problématiques, alors que demain, les départements ruraux seront majoritaires dans cette région. Donc après, c'est à construire, hein, avec nos collègues des autres départements. Mais je pense que on arrivera à pouvoir se faire entendre et à partager des problématiques et du coup, à les porter aussi ensemble.
Puis, enfin... Ça, c'est une réalité, effectivement, qu'on est une majorité de départements ruraux dans la nouvelle région. Et puis, c'est pas parce qu'il y a certaines compétences qui partent du département que tout va foutre le camp avec et qu'on ne gardera pas localement des structures. Et je pense qu'il y a du partenariat qui va se faire avec le département principalement sur un certain nombre de questions.
Moi, je pense qu'avec une grande région, le rôle des départements est d'autant plus renforcé parce qu'il y a des choses qui... Enfin, je pense au transport scolaire, par exemple, qui, en proximité, sont mieux gérées, à mon sens, qu'à l'échelle d'une grande région. Et donc, c'est pas parce que c'est une autre collectivité qui devient chef de file que l'on n'aura pas le droit d'intervenir. Ça se fera dans le cadre des orientations prises par le chef de file, mais on pourra continuer à intervenir si on arrive à bâtir le partenariat dont parlait Laurentio.
Et le chef de file, il aura très certainement intérêt à prendre des partenariats locaux. Hein.
Bien sûr. Alors, vous l'avez évoqué sur ces compétences partagées, le tourisme, le sport, la culture. Nous sortons d'un été qui a été plutôt favorable à toutes ces disciplines. On a eu un très bel été sportif en Lozère. Je rappelle le passage du Tour de France et puis ce week-end, le passage de ces dames d'un espèce de Tour de France, hein, cycliste féminin. Et puis, c'est la rentrée, donc beaucoup de choses culturelles qui sont en effervescence. Jean-Claude Moulin, c'est des domaines un petit peu annexes, mais qui font le bien-vivre aussi en Lozère.
C'est des domaines très importants au sein du conseil départemental.
C'est pour vous le faire dire.
qui aide par divers programmes, donc ces deux parties. Les programmes sont divers. Sur le sport, bon, on aide les jeunes sportifs. On va continuer sur ces programmes qui sont bien faits. On va adapter un petit peu. Bon, à la marge. Mais ça touche à peu près tous les secteurs. Ça touche les grands événements sportifs. Ça touche les grands clubs sportifs. Ça touche les jeunes. Ça touche les sportifs qui sont moins aisés financièrement. Donc il y a tout un tas de programmes qui sont maintenus et que nous allons donc continuer à faire perdurer. Sur la culture, c'est vrai que dans le département, il y a c'est un département qui est très fort sur le plan culturel, puisque on voit des manifestations même dans les villages les plus reculés ou les plus petits. Il y a chaque année de nouveaux festivals qui se créent et que l'on a d'ailleurs continué que l'on a aidé, même ceux qui se lançaient pour la première fois cette année. Donc c'est un point très fort. Que nous maintiendrons, bien sûr, sachant aussi que dans ce secteur-là, on a l'école départementale de musique qui est notre gros morceau sur le plan culturel, qui a aussi le conventionnement avec les scènes croisées, qui a tout un tas de programmes qui sont inévitables et que nous allons continuer à faire fonctionner puisque cela fonctionne très bien.
On va en parler. On n'avait pas pensé en parler, mais finalement, il faudrait l'évoquer. Marvejol, la situation de Marvejol, on sait qu'il est extrêmement compliqué. Dans quelle mesure le département peut aider cette
ville ? Vous avez tenu à être à la rentrée scolaire, justement, pour apporter un certain message aux Marvejolais.
Bon, mais dans notre groupe, hein, on a nos deux collègues de Marvejol, hein, que ce soit Patricia Brémond ou Bernard Durand, et qui bon, nous tiennent au courant régulièrement de ce qui se passe. Dans l'été, bah, c'est Jean-Claude Moulin qui s'est beaucoup investi, hein, quand on est arrivé, notamment auprès des associations culturelles et sportives. Donc le département est quand même intervenu financièrement au-delà de ce qu'on faisait d'habitude, hein, sur un certain nombre d'associations sur Marvejol. Moi, c'est vrai qu'à la rentrée, j'ai voulu être présente pour dire que, voilà, au-delà de ce qui se passait, ce qui était important pour Marvejol, c'était de regarder devant, hein, de retrouver des perspectives de développement, même s'ils auront des mesures là aussi courageuses à prendre pour en matière de redressement, et que dans le cadre de nos compétences, évidemment, le conseil départemental était aux côtés des Marvejolais à travers l'épreuve qui traverse depuis plusieurs mois.
Vous appelez d'ailleurs, comme beaucoup, à une espèce de liste d'union là pour sortir de la crise, une espèce de parenthèse politique, on va dire, pour que Marvejol puisse relever la tête.
Oui, moi je pense que un peu ce qu'on a fait nous au département, hein, en ouvrant notre majorité, je crois qu'à un moment donné en Lozère on n'est pas assez nombreux pour se battre sur parfois des bêtises, et du coup là pour Marvejol, il faut que toutes les bonnes volontés et surtout toutes les compétences se mettent autour de la table, et c'est pour ça qu'avec Alain Bertrand, Damien Larry et moi-même, on souhaite une liste d'union et de rassemblement, voilà, dans l'intérêt de Marvejol, et que ce soit des Marvejolais qui prennent les rênes.
Moi, je peux apporter un complément. Je pense qu'effectivement, la situation est sérieuse à Marvejol, et que donc il y a besoin de dépasser un peu la politique, de dépasser un peu les partis pour aller et trouver quelqu'un qui est le pragmatisme pour remettre la situation à flot, parce qu'il y a les problèmes politiques, mais il y a des problèmes aussi à l'intérieur de la collectivité même, avec un DGS qui est en longue maladie. Donc ça, c'est il y a vraiment un travail de fond à faire pour le nouveau maire qui va arriver. Donc il faut un gestionnaire, il faut quelqu'un qui arrive avec les mesures, comme le disait la présidente, des mesures difficiles à prendre, mais il faut quelqu'un qui arrive avec la volonté de tout regarder dans le détail, un peu comme nous on fait au département aujourd'hui, pour être pragmatique et trouver des solutions de gestion.
Jean-Claude Moulin, ces associations que vous avez rencontrées cet été, de culture, de sport, que vous les avez trouvées comment ? Combattantes ?
Oui. Toutes les associations, et je parle bien sûr du secteur de Marvejol, je pense que c'est ce que vous voulez dire, n'ont pas l'intention de baisser les bras. Ils savent que bon, la municipalité ne pourra pas les aider pendant un certain nombre d'années. Ça, tout le monde en est parfaitement conscient. Donc ils ont retroussé les manches, ils se sont attelés donc à maintenir les manifestations qui étaient prévues déjà sur Marvejol. Elles ont été toutes maintenues. Donc, il y a un effort à faire effectivement pour financer, pour aider un peu. Donc, nous, on l'a fait un petit peu, donc à la hauteur de nos moyens. On va certainement continuer aussi, en tout cas, à les regarder avec toute bienveillance. Et puis chacun aussi sait qu'il y a peut-être des choses à adapter et à diminuer peut-être certains frais qui sont des fois pas trop justifiés. Donc là aussi, c'est à eux de prendre les choses en main et de monter des choses qui soient réalisables et qui soient donc faisables avec les finances qui seront bien entendu en diminution pour eux, hein, ça c'est certain.
Il est 1h25, on va finir rapidement avec deux questions. Première question, Caroline.
Alors, je le disais, l'été a été beau, les tendances sont favorables, on n'a pas encore tous les chiffres, mais comment se porte le tourisme en Lozère ? On sait que c'est une des activités principales. Et quels sont vos projets pour l'avenir, pour ce tourisme lozérien ?
Alors, rapidement, bon, les chiffres de l'été sont bons en fréquentation, ce qui ne veut pas forcément dire que le panier moyen est satisfaisant.
Il a baissé, et en Lozère,
il a aussi baissé. On a des différences suivant les territoires, là. Mais bon, voilà ce qu'on a pour le moment comme premier chiffre. Il faut qu'on attende totalement la fin de la saison, parce que parfois, on a un bel automne qui peut aussi rattraper des printemps qui sont des débuts de mois de juillet qui sont moins bons. On a commencé à faire un travail avec les acteurs du tourisme, hein, dès le printemps. On a des journées de séminaires sur le positionnement, quel positionnement pour savoir comment on va pouvoir promouvoir le département, hein, quelle thématique. Donc ça, c'est prévu à l'automne pour pouvoir renforcer notre plan marketing. Et donc, parmi les mesures que l'on a prises dès le départ en arrivant, on a baissé, par exemple, la communication interne à destination des Lozériens pour pouvoir retrouver des moyens et pouvoir relancer une campagne de communication externe, d'abord vers les grandes villes régionales et puis ensuite finir à Paris.
Sous quelle forme, on le sait ou pas encore ?
L'équipe de com est en train de travailler dessus, on a quelques idées. Il faut garder un peu, hein, on ne va pas tout dévoiler, vous nous réinviterez.
D'accord, on vous réinvitera.
C'est à ce micro, il n'y a pas de souci alors.
On va travailler cet automne d'ailleurs à la redéfinition du plan pluriannuel aussi du tourisme en Lozère, puisque le schéma court jusqu'au 31 décembre 2016, et donc il y a un vrai travail là, il y a de vraies orientations à prendre en matière de
tourisme. C'est-à-dire une fois qu'on a défini le positionnement, ça nous permettra de revoir notre schéma départemental avec forcément de nouvelles actions. Mais tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur quelles sont les valeurs et qu'est-ce qu'on veut vendre, on ne peut pas décliner un plan d'action.
On a été classé UNESCO il y a quelque temps. On a un peu l'impression que c'est au point mort, cette histoire. Alors, ça fait très joli hein, d'être UNESCO, mais qu'est-ce qui se passe pour ça ?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu les panneaux. Les gens voient les panneaux et pas autre chose. Il y a eu un travail d'inventaire qui a quand même été important et qui s'est pas vu. Moi, je veux pas qu'on jette la pierre non plus sur tout.
Non, voilà. C'est pas mon idée.
Mais c'est vrai qu'en termes de promotion touristique, c'est aussi une page blanche et il faut qu'on puisse travailler. Je dois vous avouer qu'il y a aussi un manque d'implication hein, de certains de nos collègues qui fait qu'on n'a toujours pas pu réunir quand même les instances pour renouveler la présidence et le bureau de l'UNESCO. Donc ça vous donne une idée de la difficulté à gérer à 4 départements ce type de structure. Donc c'est prévu vendredi, mais en espérant qu'on aura le quorum.
On parle de communication, on parle de tourisme. Il nous reste 2 minutes. On va, pour finir, dire un mot sur l'exposition universelle de Milan à laquelle va participer le conseil départemental.
Oui, alors quand on est arrivé donc au mois d'avril, tout était bouclé hein, pour participer au Pavillon France. Donc on a écrit au ministère des Affaires étrangères qui a réussi à nous trouver une journée promouvoir donc les produits lausériens, puisque la thématique c'est l'alimentaire, les savoir-faire, etc. Et puis grâce à un partenariat que nous avions quand j'étais maire sur la commune du Pont de Montvert avec une association nationale qui s'appelle Artine Fiera, nous sommes accueillis dans le stand des savoir-faire, donc par des Italiens, qui nous mettent à disposition pendant 15 jours leur stand, totalement gratuitement, hein, parce que ça vaut 50 000 euros un stand. Donc on n'avait pas du tout les moyens. Mon premier vice-président ne m'avait pas donné l'argent, donc voilà. Donc on a bien négocié, ce sont les Italiens qui nous accueillent, et ça nous permet de pouvoir promouvoir le département pendant 15 jours, et on y va, nous, le temps d'un week-end, voilà.
Merci à vous trois d'être venus pour cette émission. Je vous laisse conclure si vous avez un mot de conclusion, quelque chose, un message à faire passer, Laurentio.
Moi, je conclurai par solidarité de territoire, solidarité entre la ville, préfecture et le reste du département, solidarité avec les Marvejolais, solidarité avec les agriculteurs qui ont bien souffert cet été, qui souffrent encore de par les crises. Notamment des producteurs de lait et puis même de la viande, des cours de viande qui sont relativement bas. Donc c'est un peu, oui, il faut qu'on soit solidaires aux Lozériens, qu'on dépasse les clivages politiques pour aller de l'avant.
Très bien.
C'est dans l'actualité, solidaire avec quelques réfugiés.
Oui.
Le département y pense.
Oui, le département y pense et y travaille. J'ai vu l'actualité de Midi Libre aujourd'hui. On en a parlé pas plus tard encore que hier. On a une réunion de prévue avec les services de l'État dimanche. Et nous, après, on prendra une décision tous ensemble la semaine prochaine. Mais évidemment, on prendra notre part pour accueillir une partie de ces réfugiés sur notre territoire.
Merci d'être resté à l'écoute de 48FM pour ce mag en partenariat avec le journal Le Midi Libre, Caroline Gaillard, chef d'agence qui est ici présent. Un mag que vous pourrez réécouter jeudi à 19h. On change les horaires cette année des rediffusions et mardi prochain à midi et demi. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Merci à Caroline et à bientôt.
Merci à vous.